totalement. Et quand je découvre ça, alors là, on voit réellement qu'on est en présence d'une organisation de subversion internationale qui s'appuie sur la franc-maçonnerie. Car contrairement à ce que certains prétendent, font semblant de croire, il n'y a aucune différence entre la maçonnerie régulière et la maçonnerie courante. C'est la même chose. C'est simplement que les Bnaïbrites sont reçus dans tous les ateliers de toutes les obédiences quand ils veulent, alors qu'aucun franc-maçon d'une obédience, d'obédience profane, ne peut être reçu dans les ateliers Bnaïbrites. Il n'est pas reçu comme ça, il est reçu comme invité, ce qui est totalement différent. Ça, invité, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui sont reçus dans des, qu'ils appellent des cuves blanches, fermées ou ouvertes. Mais en réalité, ne peut être un Bnaïbrite que quelqu'un qui appartient à la communauté. Autrement, il ne peut pas. C'est une impossibilité absolue. Or, c'est devant ces gens-là que, je vous le rappelle, à la fin des années 80, enfin, à la moitié des années 80, à 85, les hommes politiques français ont comparu pour dire. Pour prendre l'engagement de ne jamais s'associer avec les mouvements nationalistes français, notamment avec le Front National. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en France sur le plan politique est absolument dicté par la France. Et c'est ce qui explique le fonctionnement des dynamiques horizontales, si j'ose dire. Comment peut-on comprendre que des gens qui appartiennent à l'UDF, au RPR, aient ces relations tout à fait privilégiées avec des gens du Parti Socialiste ou des communistes? C'est parce que, le système devrait converger et il ne devrait se rencontrer que par le haut. Il y a les chefs qui vont avoir des contacts, et encore pas des contacts très amicaux. Or là, il suffit de regarder, quand vous voyez des reportages à la télévision, vous voyez bien que ces gens-là se répandent, qui sympathisent, qui se parlent, avec des moments absolument irrésistibles, comme l'autre jour, madame, comment elle s'appelle cette fille, Claire Chazal sur TF1, qui dit à Le Pen, bon monsieur Le Pen, maintenant on va vous laisser partir, Le Pen dit, ce qu'on va vous foutre à la porte. Et elle se tourne vers Guesso, elle lui dit « Alors dites-moi Jean-Claude !» C'est quand même extraordinaire. On est dans un système où une journaliste qui est d'un autre journaliste, qui sont les deux journalistes les plus puissants en France, pratiquement. C'est eux qui disent la vérité prédigérée en permanence aux Français, appelle par son prénom un ministre communiste. On est au cœur de la société de connivence. Eh bien, toute cette connivence, elle passe par les circuits maçonniques. Car, à la maçonnerie, c'est le mot d'ordre de la maçonnerie, c'est solver et coaguler. Et solver, ça veut dire dissoudre, c'est-à-dire dissoudre tous les systèmes sociaux traditionnels existants, notamment les hiérarchies, notamment les cloisonnements. Et là, on est dans un système qui nie à la fois les hiérarchies et les cloisonnements. C'est-à-dire que des journalistes peuvent copiner avec des ministres, des journalistes qui sont des journalistes de la télévision de tous les Français, peuvent copiner avec des ministres qui ne sont pas les ministres de tous les Français, mais qui sont les ministres communistes. C'est-à-dire ce système-là ne peut passer que par la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie a le moyen de nier absolument toutes les différences, de nier toutes les catégories, de nier tous les cloisonnements, pour ne garder que les différences, les catégories, les cloisonnements entre ceux qui appartiennent à la société de connivence et ceux qui en sont exclus. C'est pour ça que le système ne peut pas accepter de gens qui sont des contestataires des fondements du système et qui mettent une considération au-dessus de la considération de l'intérêt du groupe. Alors, il est évident que dans un système politique, le système politique est orienté soit vers la défense des intérêts de la nation, soit vers la défense des intérêts d'un groupe à l'intérieur de la nation. Les mouvements nationaux, comme leur nom l'indique, sont orientés vers la défense des intérêts de la nation,
et les mouvements antinationaux sont orientés vers la défense des intérêts de groupe à l'intérieur de la nation. Et ces intérêts ne peuvent être défendus que contre les intérêts de la nation. Ça, c'est tout à fait clair. Et tout fonctionne comme ça. En ce moment, toutes les affaires sans exception qui secouent le régime, sont des affaires d'origine nationale. L'affaire Dumas, c'est une affaire d'origine nationale. L'affaire, le Crédit Lyonnais n'a pu se produire que parce que tous les dirigeants du Crédit Lyonnais, ou la quasi-totalité des dirigeants du Crédit Lyonnais appartenaient à la nationale. Toutes les affaires des 10 dernières années sont passées par deux ateliers maçonniques qui s'appellent la loge Victor Schoelcher et puis une autre dont le nom échappe pour l'instant, mais ça me reviendra sans doute, qui étaient des loges à l'intérieur desquelles on passait des contrats. On discutait des affaires qu'on allait faire, qui allait toucher, qui allait servir d'intermédiaire, comment on allait répartir le fric, comment on allait le faire circuler, etc. Et avec des choses très très élémentaires, c'est-à-dire que quand par exemple on voulait faire circuler de l'argent liquide, eh bien pour passer une frontière, on avait un frère douanier, pas douanier, pas le gabelou avec les grosses moustaches, un des patrons de la douane qui disait voilà, vous allez passer à tel endroit, tel jour, à telle heure, et je prends les dispositions pour que ça se passe. Et là le fric circule et jamais ils sont arrêtés. Donc, très vite, à partir d'une conception assez banale de l'entraide fraternelle, comme ils disent, on arrive à l'organisation d'une véritable mafia. Et cette mafia, elle est fondée sur, comme toutes les mafias, sur le fric. Alors, cela dit, cette mafia, elle connaît tous les problèmes que connaissent les autres mafias, notamment les guerres entre familles. Et dans la franc-maçonnerie, vous avez des familles qui sont... la Grande Loge, le Grand Orient de France, ces familles, elles se font la guerre entre elles. Elles se font la guerre parce que le pouvoir que représentent les loges, c'est un pouvoir qui rapporte beaucoup d'argent. C'est donc des sommes considérables qui transitent par les réseaux maçonniques. Et naturellement, ce sont les réseaux. Ce sont les obédiences qui contrôlent les réseaux, qui tirent le principal bénéfice de ces circulations. Je vais prendre un exemple. Quand la maçonnerie a été réautorisée au Portugal, après la chute du gouvernement Salazar et des successeurs de Salazar, il y a eu un grand débat, enfin pas un grand débat, il y a eu une bagarre entre les obédiences pour savoir qui allait prendre le contrôle de la maçonnerie portugaise. Parce que les loges maçonniques ne peuvent être créées que si elles ont ce qu'on appelle des lettres patentes qui sont attribuées par des obédiences maçonniques déjà existantes. Or, il faut savoir que dans le monde à l'heure actuelle, il y a deux grands systèmes. Il y a le système de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui contrôle la quasi-totalité des loges dans les pays anglo-saxons. Et puis il y a le système du Grand Orient, qui est séparé de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est considérée par la Grande Loge Unie d'Angleterre comme une obédience irrégulière, et qui contrôle beaucoup de loges dans les pays méditerranéens, dans les pays arabes et dans les pays d'Amérique du Sud. Donc ces gens-là sont en concurrence. Et à l'intérieur des obédiences du Grand Orient, il y a une dissidence du Grand Orient qui s'appelle la Grande Loge de France, qui elle est également en guerre contre le Grand Orient. Et puis en France, vous avez la Grande Loge nationale française, qui elle dépend de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et qui est donc en guerre contre le Grand Orient et la Grande Loge de France, au nom de la Grande Loge Unie d'Angleterre, mais qui n'est pas totalement au service de la Grande Loge Unie d'Angleterre, parce que quand même, ils veulent garder un peu de truc pour eux. C'est-à-dire que quand il y a une affaire qui se déroule en France, il y a au moins, enfin, qui concerne les Français. Par exemple, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, la prise de contrôle de la franc-maçonnerie renaissante au Portugal. Ou maintenant, d'ailleurs, la prise de contrôle des francs-maçonneries renaissantes dans les pays de l'Est. Ce qui représente des milliards. Pas du tout comme on pense, parce que le bon clan Panba va donner sa capitation, ses 200 francs ou 500 francs, 4000 francs par an pour être franc-maçon. Ça, c'est peanuts. Mais c'est uniquement parce que c'est eux qui détiennent les clés des réseaux de circulation du gros fric. Et ils pompent au passage. Donc cet argent-là, il faut en avoir le contrôle. Pour avoir le contrôle de l'argent, il faut le contrôle des réseaux. Et pour avoir le contrôle des réseaux, il faut avoir le contrôle des obédiences. Donc les différentes obédiences françaises, enfin françaises, européennes, en tout cas, Grande Loge Unie d'Angleterre, Grande Loge de France, Grand Orient de France, se font une guerre à mort pour le contrôle des régions. Et quand je dis à mort, je dis bien à mort. Le grand maître de la grande du Grand Orient de France, qui est mort dans un accident d'avion il y a quelques années, Barouin, il a été assassiné parce qu'il était en train, il y avait une guerre qui était en train de se dérouler entre deux obédiences pour le contrôle de la franc-maçonnerie au Gabon. Parce que Bongo, un personnage tout à fait sympathique et particulier, il est à la fois catholique et musulman, et il est à la fois au Grand Orient et à la Grande Loge de France. Et accessoirement, il est à la Grande Loge nationale française. Alors, chaque fois qu'il se présente quelque part, on est mon frère, on est content de le recevoir, mais personne ne peut lui dire, personne n'ose lui dire, président, vous ne pouvez pas être à la fois ici et là, c'est pas ce qu'il faut dire. Il y a trop de fric. Donc on le laisse entrer. Mais après, les gens essayent de prendre le contrôle. Et il s'entretue pour ça. Et Barouin est mort de ça. Et quand j'étais à la Grande Loge nationale française, il y avait une guerre qui était en cours, justement, à l'époque. Il était assez comparable. Il espérait qu'en tant que journaliste, je lui serais utile et tout. Moi, d'un coup, il s'est trompé, d'ailleurs. Mais, donc, il essayait de m'avoir à la bonne. Il me faisait des confidences. Il m'avait dit, cette affaire, c'est un truc extrêmement dur, c'est très dangereux, parce qu'en face, ils sont prêts à tout, ils seraient capables de nous flinguer, tellement ils veulent cette affaire. Donc, il y a réellement une guerre maçonnique qui existe entre les obédiences pour le contrôle des réseaux de circulation de l'argent et des affaires. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre notamment le fait que certaines affaires sont venues à la lumière alors qu'elles auraient dû rester étouffées. Par exemple, l'affaire de l'Arc, normalement, est une sorte qui n'aurait jamais dû monter la surface. C'est monté la surface parce qu'il y a des gens qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas croqué assez. Et que donc, il fallait balancer ceux qui avaient trop croqué. Et ils ont commencé à parler. Mais dans l'affaire de l'Arc, les sommes en jeu étaient tellement colossales que, et les redistributions étaient tellement nombreuses que normalement ça n'aurait jamais dû éclater. Personne n'avait intérêt à cette affaire. Et c'est pour ça que cette affaire met autant de temps à bouger. Avant-hier, on a remis en prison M. Michel Simon, qui est un des opérateurs de l'affaire. Mais en réalité, depuis le temps que ça dure, ça fait longtemps que Rosemary aurait dû être condamnée à plusieurs années de prison ferme, mais elle dit en prison. Or, c'est pas encore le cas. Parce que les réseaux continuent à faire pression pour le protéger. De même, dans l'affaire du sang contaminé, tous les responsables de l'affaire du sang contaminé, à commencer par Garetta, étaient les francs-maçons de haut grade. Et là, non seulement ils se sont protégés, ce qui est fabuleux, si vous regardez l'affaire du sang contaminé, dès que l'affaire a éclaté, tous les responsables ont commencé à ficher la Légion d'honneur. Voilà. Avant même qu'on en parle, on commençait à leur refiler la Légion d'honneur, qui était une espèce de viatique. On disait, et le premier qu'il a eu, c'est Garetta. Garetta était déjà sur le point d'être inculpé pour son rôle dans l'affaire du champ contaminé. Je rappelle que son rôle dans l'affaire du champ contaminé, c'était pas seulement de fermer les yeux sur certaines choses, c'était de monter un circuit qui lui a permis de gagner des milliards et de distribuer des milliards à des gens en bloquant la mise en place d'un système de contrôle de du sang transfusionnel. C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il allait condamner des gens à mort. Eh bien, le système entier s'est mobilisé pour couvrir Garetta. Dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qui est une affaire qui est entièrement Grand Orient, c'est la même chose. Dans l'affaire des mutuelles, pour l'instant le nom ne revient pas, les mutuelles de fonctionnaires, la GMF, où il y a eu des milliards de francs actuels qui ont été dilapidés dans des opérations bidons de villages de tourisme ou de résidences de tourisme. Dans les Antilles, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été construits. On a payé des études, l'argent est parti, on a payé des entrepreneurs
ils n'ont jamais posé une brique sur deux briques l'une sur l'autre. Tout ça, c'est des francs-maçons, sans aucune exception. Ce sont des réseaux maçonniques. Donc, il faut que les choses soient bien claires. La maçonnerie, aujourd'hui, est devenue exclusivement, sauf en ce qui concerne les braves gars de la base qui n'ont absolument rien compris au film, est devenue exclusivement une couverture mafieuse. Et c'est dans la maçonnerie qu'on va chercher les dirigeants des entreprises, pas parce qu'ils ont des qualités, mais parce qu'on est sûr qu'ils respecteront l'omerta, la loi du silence. Alors, tout ça est enveloppé d'un brouillard symbolique. On vous raconte qu'il y a des gestes, qu'il y a des décors, c'est vrai, mais comme vous l'avez fait, tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse absolument personne. Il y a quelques petits ateliers qui font, comme je vous le disais tout à l'heure, la loge Héron de Villefosse, qui continuent à faire des travaux, parce qu'il faut bien occuper quelques membres de l'association à des sujets intellectuels, mais dans l'ensemble, ce n'est pas du tout l'objectif de l'association ou du groupe. L'objectif de l'association du groupe, c'est vraiment de faire un système, de construire une usine à gaz, comme on dit, dont l'objectif est de pomper du feu. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus avoir un gouvernement sans qu'il y ait les maçons, mais à la limite, il pourrait s'en passer. Parce que la franc-maçonnerie a fini par mettre en place un système de contrôle de l'administration qui fait que les ministres sont sans pouvoir. Et que ce sont les cabinets ministériels et surtout les directions administratives qui exercent la réalité du pouvoir en France. Et j'en ai eu un exemple à l'époque où Dominati était ministre, était secrétaire d'État aux rapatriés. Et on avait une amie qui était une famille d'amis, qui était des juifs rapatriés d'Algérie, qui essayait depuis des années d'obtenir l'indemnisation qui leur avait pas été versée. Quand Dominati a été nommé secrétaire d'État en rapatrié, ses amis sont venus nous voir en disant « Mais vous connaissez bien Dominati ?»« Oui, on connaît très bien, c'est un ami, c'est des amis, Dominati. » Et alors il est secrétaire d'État, est-ce que vous ne pourriez pas lui demander s'il ne peut pas faire quelque chose pour notre dossier ? Donc je suis allé voir Dominati, j'ai dit « Est-ce que tu peux faire ça ? Bon, on a des amis qui sont des rapatriés, qui sont des amis très sympas, etc. Est-ce que tu ne peux pas arranger que leur simplement, c'est de l'argent qu'on leur doit, des indemnités qu'on leur doit, on leur doit, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour que ça soit payé ? Alors il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, ils ont été payés, assez rapidement. Et alors je suis allé remercier Dominati, et il m'a dit, écoute, franchement, je ne suis pas pour grand-chose, parce que voilà ce que j'ai été obligé de faire. Moi, j'ai essayé de pousser mon dossier, il n'y avait rien à faire pour faire pousser le dossier, simplement le lapin de corridor, c'est-à-dire l'huissier à chaîne qui est devant mon bureau, est franc-mac, et il est le vénérable de la loge à laquelle appartient le type qui s'occupe des dossiers d'indemnité. Donc, comme il est corse, je lui ai dit, dis voir, tu ne peux pas t'arranger pour essayer d'arranger cette affaire. Alors il m'a dit, monsieur le ministre, avec plaisir. Et il a été voir son copain, il lui a dit, tiens, le dossier Elbaz, il est en dessous de la pile, tu le prends et tu le mets au-dessus de la pile. Alors, on a fait ça, tac, et nous avions touché 700 000 francs d'indemnisation. Voilà comment fonctionne la société politique actuelle. C'est-à-dire, c'est un lapin de corridor qui intervient auprès d'un directeur d'administration comptable pour faire passer un truc qu'un ministre ne peut pas obtenir. Alors, et ça passe par les circuits, les réseaux, d'ailleurs, le réseau corse plus le réseau maçonnique, alors ça c'est la bombe atomique. Mais, ça veut dire que quand vous êtes en face d'un ministre, voire d'un président de la République, qui vous dit, comme votre grand bonnet, on va moderniser la politique française, qui a tapé derrière contre la suspension. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont aucun moyen de contrôler le système. Le système, il est entièrement entre les mains de réseaux qui sont les inspecteurs des finances, les ingénieurs de l'équipement, et des réseaux qui sont contrôlés, manipulés par la franc-maçonnerie. Tout ça étant largement saupoudré de considérations ethno-régionalistes, essentiellement, si vous êtes auvergnat ou breton ou corse, vous avez des chances, si vous êtes breton, vous m'y arrêtez tout de suite. Hein. Là, vous coupez d'avance. Mais si vous êtes corse ou auvergnat, vous avez des chances de vous en tirer, à condition, bien entendu, d'être franc-maçon. Tout le système français fonctionne comme ça. Le drame, c'est que c'est pas explicable aux Français. Parce que les francs-maçons ont utilisé, ont mis au point, il y a très très longtemps, une méthode que j'ai appelée la méthode Léotaxie, et qui est la suivante. Léotaxie est un type qui, il y a 100 ans exactement, est allé voir une journaliste de la Croix, et leur a dit, voilà, moi je suis un franc-maçon repenti, et je viens vous raconter ce qui s'est... Alors la Croix, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, hein, pas ce qui se passe. C'est véritablement un journal catholique. Et je suis prêt à vous dire ce qui se passe en loge. Donc les journalistes ont reçu, le type a sorti tous ses papiers, ses passeports maçonniques, etc., etc. Et il a commencé à raconter. Alors, nos bons curés de la Croix, ils avaient les cheveux tout droits, c'était une épouvante absolue. Dans les loges, il se passait des messes noires, on égorgeait des enfants, on faisait apparaître le diable, on faisait des succubes, des incubes, des procubes, des tout ce qu'on peut imaginer en cubes, etc. L'horreur totale. Et pendant des semaines et des mois, la Croix a publié les confidences de Léotaxile, les aveux. Alors il y avait des conférences partout en France, il y avait 3000 personnes qui venaient assister aux conférences de Léotaxile. Il y avait des gens qui ont demandé l'interdiction de la franc-maçonnerie. Je vous rappelle que c'était au moment où, c'était donc il y a 100 ans, c'était l'affaire des Fiches, c'était le moment où la franc-maçonnerie prenait le pouvoir politique, c'était la préparation du petit percombe, enfin de la séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc il y avait une confrontation très 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 violente entre la France catholique et la France maçonnique. C'était dur. Et là, la France catholique s'était dit, bon, on les tire au collège, hein, on ne va pas les lâcher, parce que là, on a des preuves que ces gens-là sont des suppôts de Satan. Et ça a duré pendant, je ne sais pas, un an ou deux ans, monsieur un peu temps. Et au bout de cette période, monsieur Taxi l'a réuni, alors là, la grande conférence à Paris, grand truc, avec tout plein de monde autour, et puis il est monté à la télé, il a dit, bon, alors maintenant, je vais vous dire la vérité, tout ça, c'est une pipeau, c'est pas vrai, ces abrutis, je les ai trompés, c'est fabriqué en vraiment, les documents sont faux, tout est bidon, etc. Alors, ça a été épouvant. Parce que, la Croix a été ridiculisée, les milieux catholiques étaient complètement le nez dans la misère, ils ne savaient même plus comment ils s'appelaient, plus personne n'osait rien dire des francs-maçons. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que quelqu'un a dit « Ah mais ça c'est une combine maçonnique », je vais lui dire « Ouais, tu nous fais le coup de Léotaxile, alors lâche-nous un peu ». Et ça a été fini. À partir de ce moment-là, plus personne n'a pu rien dire, sur la contre la franc-maçonnerie, sans qu'on lui balance à la figure qu'il était le nouveau Léotaxile, qu'il reprenait les accusations de Léotaxile, etc. Donc ils ont monté une opération qui était formidable, et qui marche encore aujourd'hui. Quand vous dites aux Français, ça c'est un coup maçonnique, les gens de haute ou pas, et complot, qu'est-ce que vous nous racontez des complots, hein? L'obsession du complot, la théorie du complot, et ça, c'est même plus la peine de parler, parce que les gens vous disent, ouais, c'est encore des histoires de complot. Eh bien oui, il y a un complot, tout le monde vous dit, c'est comme ça, il est réel. On peut passer pour un fou en le disant, mais moi je pense que je préfère passer pour un fou et dire ce que je sais plutôt que passer pour un type intelligent en me plaisant. Sinon je serais resté pour maçon et je serais probablement plus à l'aise que je le suis aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que il existe vraiment une puissance occulte dans la politique au premier niveau, dans le pays en général à un second niveau. Et cette puissance occulte, elle est entre les mains de gens qui sont, eux, alors, pas du tout déterminés à gagner plus de fric, parce qu'à la limite, ils s'en foutent, ils en ont tellement, ils n'ont pas besoin de plus. Mais de faire un véritable travail de subversion. Un véritable travail de subversion contre la société. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce travail de subversion, il a commencé il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3 siècles, mais il s'est manifesté avec une particulière vigueur au moment de la Révolution. Et là, je ne vais pas vous faire de conférence sur la franc-maçonnerie de la Révolution française, mais je voudrais vous inviter à lire un livre qui est réédité par les éditions du Trident depuis quelques jours, et qui s'appelle « La franc-maçonnerie et la Révolution française » de Maurice Talmer. C'est un résumé des travaux du père Baruel. Le père Baruel a démontré que la franc-maçonnerie était la grande machinerie opérative de la Révolution française. Et Maurice Talmer a fait un résumé de ses travaux. Véritablement, il faut lire ça, parce que, d'abord, vous comprendrez, enfin, j'imagine que vous avez compris depuis longtemps, mais ça vous confortera dans la compréhension que vous avez des événements qui se sont déroulés il y a maintenant 2 siècles, mais surtout ça va éclairer d'une façon éblouissante les événements qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez comprendre comment ces gens-là travaillent, quels sont les réseaux de subversion qu'ils ont mis en place, comment ils les activent et comment ils utilisent toutes les armes, on en parlait avant-hier pour courtoisie, toutes les armes du noyautage subversif. Avec les trois outils qui sont extraordinairement simples à utiliser, qui sont liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez utiliser les trois mots, vous en faites ce que vous voulez. Et pour résumer le travail de la franc-maçonnerie, mon ami le docteur Planté a une image, alors j'en demande par avance pardon aux dames, c'est un petit peu leste, mais il pose la question. Il dit qu'à l'Institut Dzerzhinsky à Moscou, quand on voulait sélectionner les officiers du KGB, on utilisait cette méthode, on disait à ces gens-là, voilà, on leur posait une question. On leur disait, voilà, le problème est le suivant. Vous avez un chat et vous avez du poivre rouge. Comment allez-vous faire manger le poivre rouge au chat? Est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer pour faire manger le poivre rouge? Alors on dit, il faut le mettre dans une boulette de pain, il faut le mélanger dedans, ça marche pas, le chat il rentre pas. La seule solution, pardon mesdames, la seule solution pour faire manger le poivre rouge au chat, c'est de lui en tartiner le derrière, ça le pique, il se lèche et il mange le poivre rouge. Eh bien, ça fait deux siècles que la société française se fait tartiner le derrière de poivre rouge par la maçonnerie et elle se lèche. Voilà.
J'avais fait un voyage avec une activité en 77 et le guide qu'on avait, ils avaient raconté qu'il était franc-maçon et ils nous racontaient la façon dont il a été recruté, que le terme black boulet ça vient de la franc-maçonnerie, qu'il a été jugé sur des boules noires et des boules blanches.
Alors quand vous vous présentez en maçonnerie, voilà comment ça se passe. En général, vous êtes contacté par des gens qui pensent que vous pouvez rendre service et donc ils vous disent ah, tu as un profil, tu es une pierre brute, tu es un type intelligent, on sent que tu as du cœur, tu feras un bon maçon, tu es donc une pierre brute. Ou un maçon sans tablier, il faut que tu viennes chez nous, on a besoin de gens comme toi. Alors ça vous plaît, et donc vous dis allez, j'ai été sélectionné, je suis élu. Déjà ça commence. Et quand vous arrivez, ils vous font, donc vous remplissez un papier pour demander à devenir un porteur. Et là, ils vous envoient deux inspecteurs. Il faut une enquête. Donc il y a deux membres de la loge qui viennent et qui remettent un rapport sur vous. Comment vous vivez, où vous vivez, etc. Et puis ensuite, vous comparaissez. Alors là, la loge prend une décision et dit on va le recevoir ou on ne va pas le recevoir. On dit il est utile ou il n'est pas utile. Si vous êtes considéré comme utile, vous comparaissez devant l'atelier, les yeux bandés, ça s'appelle passer sous le bandeau, et on vous pose des questions. En réalité, on vous demande des choses assez élémentaires. On dit par exemple, est-ce que tu accordes une grande importance à la fidélité conjugale? Est-ce que vous êtes, c'est vraiment vous, soit, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Est-ce que vous considérez que les syndicats sont une chose positive ou pas? Enfin, des trucs comme ça, n'importe quoi. Les réponses qu'on a n'ont pas beaucoup d'importance en réalité, parce que ce que je veux savoir, c'est plutôt comment se comporte le type et s'il est malléable ou pas. Et puis une fois qu'il pense qu'il peut rentrer dans le système, alors on soumet